Et voici la revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Les relations entre les États-Unis et la Chine sont entrées dans une nouvelle phase de forte turbulence.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire hein, avec les interminables négociations commerciales de ces derniers mois après la 5G également. Voici donc le coronavirus qui vient alimenter les tensions entre les deux premières puissances économiques et militaires de la planète. Dans le South China Morning Post de Hong Kong, je lis en ce lundi matin que l'administration Trump a encore, au cours du week-end, franchi une étape dans ce qui ressemble bien à une fixation sur la Chine, une obsession à rejeter sur Pékin toute la responsabilité de la pandémie de Covid-19. La Chine a, ces dernières heures, été accusée par le président en exercice des États-Unis sur la chaîne Fox News d'avoir couvert l'apparition de l'épidémie à ses débuts, d'en avoir masqué l'ampleur au monde et de l'avoir ensuite sciemment exporté à l'étranger. Ils ont fait une erreur terrible au départ et ils ont tout fait pour la cacher, résume Donald Trump, qui pour une fois, note The South China Morning Post, ne se vautre pas dans la théorie conspirationniste qui voudrait que le virus ait été en fait manufacturé dans un laboratoire de Wuhan. Pour la bonne raison qu'il laisse le chef de sa diplomatie le faire, ce discours conspirationniste ce dimanche, c'est donc Mike Pompeo, enchaîne le Wall Street Journal, qui a joué sur ce registre-là, affirmant détenir une preuve énorme de la responsabilité des Chinois dans la production et la diffusion du nouveau coronavirus. Une preuve que Mike Pompeo n'est bien évidemment pas autorisé, dit-il, à révéler et que les services de renseignement américains se gardent bien de corroborer pour l'instant.
Et pour les médias chinois, pas de doute, Camille, cette escalade verbale dans les attaques américaines relève du bluff anti-chinois.
Oui, c'est tout l'objet de l'éditorial ce matin du Global Times, organe de presse dévoué au parti qui ne digère pas les attaques de Mike Pompeo, selon qui, je cite, ce n'est pas la première fois que la Chine contamine le monde depuis ses laboratoires qui ne respectent pas les standards internationaux. Le Times de Pékin donc affirme que la mystérieuse preuve brandie par les Américains n'existe pas, que toutes ces attaques ne reposent sur rien, un bluff caractérisé donc pour noyer les électeurs américains sous cette propagande anti-chinoise et surtout pour faire diversion des terribles manquements dont s'est rendu coupable l'administration Trump depuis le début de la pandémie. Toute cette rhétorique sinophobe aurait donc pour simple but d'assurer la réélection de Donald Trump au mois de novembre en présentant aux foules aveuglées un bouc émissaire facile, cette Chine sur laquelle le président américain concentrait ses attaques déjà bien avant le coronavirus. Et ça marche, à lire Politico. La sinophobie gagne du terrain partout aux États-Unis, en tout cas dans les médias et les réseaux conservateurs. Des chaînes de radio locales organisent des antennes ouvertes où tout et n'importe quoi se retrouve être la faute de la Chine, que l'on jure de faire payer pour tous ses méfaits, jusqu'à ces élus républicains dans les congrès des États qui déposent des propositions de loi pour faire condamner les actions négligentes et hostile de Pékin. La Chine est donc condamnée sans procès, désignée à la haine des partisans de Trump, qui reprennent déjà des slogans anti-Chine dans les meetings du président. La campagne présidentielle va se jouer entre Donald Trump et Joe Biden sur qui sera le plus dur face aux Chinois. C'est la prédiction du sondeur pro-républicain Franz Lutz, cité par Politico. Mais attention, prédit à son tour l'éditorialiste Max Boot dans le Washington Post, s'il n'est pas factuellement faux de dire que la Chine a volontairement tardé à lancer l'alerte internationale sur le nouveau coronavirus, cela ne mène à rien pour l'Amérique de vouloir tout lui faire payer. Si les États-Unis décidaient de mettre la Chine à genoux financièrement, les effets sur l'économie américaine, sur l'économie mondiale, seraient bien pires encore. Et Max Boot de conclure qu'après tout, si on suivait cette logique simpliste du bouc émissaire, alors le monde entier serait en droit de demander des comptes aux États-Unis. Après tout, la grippe soi-disant espagnole qui a fait entre 50 et 100 millions de morts à travers la planète en 1918 et 1919 est partie d'une base militaire du Kansas et elle a voyagé à travers le monde aux frais de l'armée américaine.
Et pendant ce temps, Camille, la population américaine se pose une grande question que d'autres se posent aussi, porter un masque ou ne pas en porter.
Et intéressant de voir avec Rick Rojas du New York Times à quel point le port du fameux masque grand public est devenu un marqueur visuel, un signe d'affirmation de nos opinions plus ou moins conscientes dans le contexte tendu du coronavirus. Et surtout, ce masque est devenu le point de fixation de beaucoup trop de tensions collectives. On apprend par exemple que dans le Michigan, l'agent de sécurité d'un magasin de discount a été abattu par un client qui n'a pas aimé qu'on lui rappelle la règle en vigueur. Pourtant, dans cet état, port du masque obligatoire dans les espaces public clos. Dans l'Oklahoma, il y a eu tellement d'altercations violentes dans les premières heures qui ont suivi le décret d'obligation de port du masque que les autorités locales ont dû faire machine arrière. Il y a donc, commente Rick Roras, une sorte de rébellion en vogue, plus ou moins épidermique, plus ou moins structurée politiquement, à refuser de porter le carré de textile sur son visage. Que l'on ne croit pas à son efficacité, que l'on ne supporte pas la buée sur les lunettes ou que l'on refuse tout simplement de se faire imposer ses accessoires de mode, le fait que l'on puisse décider de s'exhiber en public sans masque expose désormais en retour à la vindicte populaire. C'est particulièrement vrai en Asie. Le Straits Times de Singapour y raconte comment une femme de 47 ans a été prise à partie dimanche par des passants parce qu'elle avait osé sortir dans la rue le visage découvert. Elle s'est défendue en évoquant ses libertés individuelles, mais l'argument semble hors sujet. La voilà aujourd'hui conspuée sur tous les réseaux sociaux de Singapour où la vidéo de son altercation a été publiée. Une enquête judiciaire a même été ouverte contre la contrevenante pour nuisance publique et mise en danger de la vie d'autrui.
Merci beaucoup Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr. Il est 7h48.